Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr. Cette semaine, Comic Stories présente Supergirl, c'est de bon ton, avec l'arrivée de la série sur la CBS, série qui a très bien marché en audience pour son pilote, dont on vous a fait le débrief dans notre dernière émission de Sur nos écrans, numéro 28. Débrief avec des avis assez partagés qui étaient assez intéressants à écouter. Mais pour notre part, pour cette émission, nous allons vous présenter le personnage de Supergirl, ses différentes incarnations et son histoire. Je suis Mathieu et cette semaine, Comic Stories présente Supergirl. Et avec moi, Arnaud.
Salut.
Et Clément.
Salut.
Alors, je vous propose fonctionner de la manière suivante. On va d'abord, dans une grande première partie, dire qui est Supergirl, quelles ont été ses différentes incarnations, les éléments importants de son histoire. On s'arrêtera sur quelques petites mini-séries, séries ou arcs que nous avons pu lire les uns ou les autres. Et puis, ensuite, on parlera rapidement d'une de ses versions alternatives, qui est Power Girl, et puis des grandes adaptations du personnage sur les écrans. Alors, qui est Supergirl? Alors, beaucoup pensent, à tort et à la fois à raison, que Supergirl est née dans Action Comics numéro 252 en mai 1959. Mais non, nous avons eu un an plus tôt, en août 1958, une Super-Girl dans le Superman numéro 123 de Otto Binder et Kurt Swan. Donc ça, c'est la première apparition d'une Supergirl, et c'était en fait suite à un souhait de Jimmy Olsen, qui avait souhaité voir un personnage féminin aussi fort que Superman, machin, tout ça, tout ça. Et du coup, son souhait a été exaucé et Super-Girl est apparu. Très grande réaction, très positive de la part des fans. Du coup, DC a choisi d'en faire un vrai personnage à part entière. On lui a enlevé son tiret. Elle s'appelle maintenant Supergirl en un seul mot et elle arrive dans Action Comics numéro 252 en mai 1959, créée par toujours Otto Binder, mais cette fois c'était Al Plastino qui l'accompagnait. Voilà rapidement pour sa création. Est-ce que tu veux bien, Clément, nous parler de ses pouvoirs?
Oui, alors, globalement, c'est les mêmes, non, c'est même les mêmes pouvoirs que Superman, en fait. C'est-à-dire la super force, la super vitesse, l'invulnérabilité, le vol, la vision à rayon X, la vision télescopique et microscopique, la vision thermique, la super ouïe, le super souffle, la super mémoire et la super intelligence. Et puis, forcément, en point faible, la kryptonite. Et les soleils rouges.
Et les soleils rouges comme sur Krypton qui expliquent qu'elle n'avait pas de pouvoir sur sa planète. On retiendra super mémoire et super intelligence. Je pense que ça a dû être oublié.
Mais oui, c'est ce que je me suis dit. Il n'y a
C'est une
pas ça,
personne qui se
Superman.
rappelle de tout ce qu'elle voit, de tout ce qu'elle a vécu, qui a une excellente mémoire photographique et qui est capable de resituer une scène très rapidement, une personne aussi très rapidement,
Je crois qu'ils l'ont mis, ce
et
caractère.
qui est capable aussi de traiter l'information. Elle est super intelligente dans ce sens-là. Elle est capable de traiter l'information, de
D'accord.
l'analyser et d'en tirer quelque chose à une très très grande vitesse.
Mais donc théoriquement, Superman l'a aussi ça.
Oui. Superman, oui, c'est un petit peu moins, enfin, c'est un petit peu moins peut-être. C'est plus quand même.
J'avais pas capté ça, j'avais jamais percuté qu'il y avait
Souvent, dans certaines histoires de Supergirl, on fait appel à des flashbacks où elle essaie de se rappeler de son
D'accord.
passé, etc. Et on voit que là, ses souvenirs sont très très précis. Voilà. Donc, 1958, Superman numéro 123, et puis surtout Action Comics 252 en 1959. Je crois, Arnaud, que tu l'as lu, Clément, non.
Non.
Et tu veux bien nous parler de ce numéro emblématique pour l'histoire du personnage?
Oui, enfin, c'est très court. C'est comme à l'époque, souvent, c'est un numéro où tu as trois histoires différentes. Et celle de Supergirl, c'est la dernière. Donc, il y a une petite douzaine de pages, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, alors que Superman combat un ennemi quelconque, une fusée s'écrase juste à côté de lui. Et dedans, quand il l'ouvre, enfin, avec sa vision, il voit qu'il y a un être humain dedans, donc il court après pour la sauver, et il se rend compte qu'en fait, c'est une fille qui n'a rien, elle a aucun dommage, malgré l'atterrissage, tout ça, et il se rend compte en fait très vite que c'est une Supergirl, parce qu'elle a le même costume que lui, avec le S emblématique, tout ça, et elle est adolescente, c'est une jeune adolescente, peut-être pré-ado, qui elle et donc elle lui raconte son histoire, que elle vivait sur la lune Argo, la lune de Krypton Argo, et que au moment de la destruction de Krypton, sa planète a eu la chance d'être mise sous une espèce de bulle, et donc c'est comme ça que sa famille et d'autres personnes qui vivaient sur Argo ont réussi à pouvoir vivre à la dérive dans l'espace. Et un jour, il y a un souci avec la planète, et du coup, ils envoient Supergirl sur Terre pour essayer de contacter Superman et les aider. Et à la suite de son récit, justement, Superman la prend sous son aile et lui dit, avant de devenir une super-héroïne, il faut que tu t'instruises et que tu deviens une bonne citoyenne humaine d'abord. Il faut que tu comprennes comment l'humanité fonctionne. Et du coup, il la met dans un orphelinat pour qu'elle aille à l'école, qu'elle ait une adolescence, une vie, tout ça. Et ça se conclut là-dessus avec Supergirl qui s'enfuit, enfin qui sort de chez elle, enfin de l'orphelinat la nuit pour utiliser ses pouvoirs malgré l'interdiction de son cousin.
Voilà, un épisode hyper classique, les origines qu'on connaît de Supergirl. Enfin voilà, il n'y a pas de surprise, j'ai envie de dire. Le style des années 50, petit côté moralisateur aussi, hein, on va la mettre dans un orphelinat pour qu'elle apprenne à être une bonne citoyenne. Enfin, voilà. Il y a aussi un message pour les jeunes enfants derrière tout ça. Hein, pas...
Pas l'oublier.
Voilà. Évidemment, Kara, donc Kara Zor-El, puisque c'est son nom kryptonien, cousine de Kal-El, Clark Kent sur notre Terre. Kara Zor-El va prendre une identité secrète, hein, et elle va s'appeler Linda Lee. Elle fera plusieurs petits boulots, journaliste, actrice par exemple. Elle aura évidemment ses histoires amoureuses et tout, voilà, comme tout personnage. Et les seuls personnages qui connaîtront son identité seront Superman, ses parents adoptifs et puis la Légion des super-héros, puisqu'elle va en faire partie. Voilà, et puis pour la petite anecdote, Superman a un chien qu'on connaît tous qui s'appelle Crypto. Mais Supergirl, elle a un chat qui s'appelle Streaky et un cheval
Je
Comet.
savais pas.
J'ai hâte de voir ça dans la série.
Un cheval Comet qui est
Oh,
doté de
ça va être
pouvoir
drôle,
lui
ouais.
aussi, tout comme le chat. D'ailleurs, un petit crossover avec My Little Pony. Hein.
Ça ferait rêver.
Avec la Batcou.
Oh non, non, tu
La
peux pas.
Batcou dans Gotham, hein.
Tu peux pas.
Ça
En
peut être
1985,
drôle.
par un événement important, Clémence, tu viens nous en parler, dans l'histoire de Supergirl, évidemment très important en 1985.
Et même dans l'histoire de DC Comics. Donc, lors de Crisis on Infinity Earth, bah, c'est ni plus ni moins bah, que la mort de ce personnage. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un contexte. Donc, déjà, la volonté de DC Comics de faire mourir des personnages importants, des personnages emblématiques. Mais surtout, cette mort de Kara Zor-El fait suite, en fait, à l'échec du film. Et donc, du coup, bah, ils ont décidé bah, de prendre, on va dire, la manière la plus radicale, donc de tuer le personnage. Et donc, du coup, ça se traduit comment? Bah, Supergirl se sacrifie pour sauver le multivers. Et donc, cette mort a lieu dans le Crisis on Infinity Earth numéro 7 en octobre 1980.
Voilà. Avec une couverture, ou en tout cas je sais plus si c'était la couverture ou si c'était une case hyper emblématique de Superman qui tient sa cousine morte dans ses bras et qui est en train de pousser un grand cri, qui en pleure. Une image assez marquante de la décennie du côté de chez DC. Voilà, c'est quelque chose de très important, la mort de Supergirl. Après cette mort-là, DC a décidé de revenir un petit peu aux bases de Superman et a choisi que Superman maintenant serait le seul et unique kryptonien vivant, le fameux dernier enfant de Krypton. Du coup, on aura des prochaines incarnations de Supergirl, mais pendant très très longtemps, elles ne seront pas kryptoniennes. On trouvera des moyens de faire pour que ce ne soit pas des jeunes femmes qui viennent de Krypton et que Kal-El reste bien le dernier enfant de Krypton. Donc on va avoir une première nouvelle incarnation de Supergirl, Arnaud.
Oui, la première s'appelle Matrix. Rien à voir avec le film, hein, mais c'est une Matrix, c'est une création de Lex Luthor, hein, qui apparaît quelques années plus tard, en 1988. Et en fait, elle possède la mémoire de Lana Lang, hein, et elle peut prendre l'apparence de qui elle veut.
Elle peut surtout prendre l'apparence de Lana.
Ah oui, pardon. Et elle peut également se rendre invisible. Et c'est le
D'accord.
personnage. Et justement, Peter David reprend cette idée-là en créant Linda Denver en septembre 96, donc presque 10 ans plus tard. Et en fait, le personnage de Matrix se sacrifie pour sauver Linda Denver, qui est mourante. Et du coup, en fait, elle fusionne avec elle. Donc en fait, Matrix fusionne avec Linda. Et en fait, elle prend l'apparence de Supergirl et plus de Lana. Et donc, suite à cette fusion, Supergirl perd quelques pouvoirs, hein, et en gagne d'autres. Hein. Elle gagne par exemple la capacité de se téléporter dans n'importe quel endroit qu'elle a déjà visité par le passé.
Ce qui peut s'avérer pratique.
C'est pas faux.
Effectivement.
Donc du coup, voilà, cette Linda Danvers, au début du run de Peter David, on apprend qu'elle a survécu à un enlèvement, etc., qu'elle a été sauvée par Supergirl, etc., enfin, voilà. Et très vite, on comprend, sans que ce soit forcément dit dans le premier épisode, très vite, on comprend que Supergirl et elle ne font plus qu'une personne, puisque Linda Danvers, qui avait auparavant les yeux marrons, a maintenant les yeux bleus de Supergirl. Et
D'accord.
il y a une grande insistance qui est faite là-dessus. Ses proches lui disent, mais tiens, tes yeux ont changé. Alors, il y a des médecins qui expliquent ça par le stress, etc. Peut-être une réaction due au stress, à des choses comme ça. Mais non, non, c'est bien le fait que elle est Supergirl. Et donc, du coup, on arrive sur la série de Peter David, avec notamment son premier arc, les 9 premiers numéros qui sont les plus emblématiques, qui font partie des histoires les plus importantes sur le personnage que tu as lu, Arnaud.
Oui, j'ai commencé à lire. Je savais qu'il y avait eu une fausse Supergirl avec Matrix, mais enfin, j'ai trouvé que c'était assez mal expliqué dans le premier numéro. Moi, j'ai pas du tout compris cette histoire de fusion entre Linda Danvers et Matrix. J'ai arrivé à comprendre ça dans le deuxième. Je sais pas si c'est vraiment c'est juste moi, puisque tu l'avais compris à la fin du premier. Mais c'était assez particulier à lire puisque ça date des années fin des années fin milieu des années 90, donc le ton est assez différent d'aujourd'hui, et notamment dans les couleurs, hein. Il y a quand même des couleurs assez criardes. C'est joli, c'est pas moche, loin de là, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est assez différent. Il y a vraiment des couleurs très criardes, je sais pas si t'es d'accord.
Bah, c'est oui, ça va avec l'époque, mais moi ça m'a pas non ça m'a pas particulièrement marqué. Moi j'ai surtout retenu que déjà à l'époque Peter David était un grand scénariste. Il m'a proposé voilà une histoire complexe où il faut faire un peu voilà effectivement tout nous est pas servi. On comprend d'abord avec les yeux bleus et puis après avec certaines infos dont Linda se rappelle, etc. Voilà. On va recoller les morceaux en même temps que le personnage. Enfin, c'est une construction assez intéressante. Voilà, Peter David nous fait de bons scénarios, de bons dialogues surtout. Et du coup, déjà là, on avait un grand Peter David. Et puis, bah, il deviendra ce qu'on connaît par la suite. Donc, voilà, c'est une histoire à la fois importante pour le personnage, mais je pense aussi pour le scénariste. Et qui a la particularité, à mon sens, d'apporter un côté sombre au Supergirl. On n'a pas la Supergirl super lumineuse, super punchy comme on pouvait avoir auparavant. Là, il y a vraiment quelque chose. Bah déjà, l'histoire vis-à-vis de Matrix, etc., c'est quelque chose d'assez. Depuis la mort, hein, tout simplement, de Supergirl en 85, voilà, il y a une espèce d'ombre qui arrivait sur elle, et du coup, Peter David s'en sert bien, et c'est ce qui rend son run, ou son début de run en tout cas, super intéressant.
Et c'est un truc qui va rester avec le personnage, parce que non. Ouais, dans la plupart des histoires qui vont suivre sur Supergirl, il y a toujours cet aspect assez sombre et peu lumineux du personnage.
On aura une autre version de ce Supergirl, après Matrix, après Linda Danvers, on aura Sir El, qui va apparaître en 2003, et qui va être en fait, elle va se présenter comme étant la future fille de Superman et Lois Lane. Donc Superman et Lois Lane auraient un enfant dans le futur, et elle, bah, ce serait elle, tout simplement. Donc Sir El, la nouvelle Supergirl. On découvrira à la suite que c'est pas du tout le cas, évidemment, qu'en fait elle est manipulée par Brainiac, qui a réussi à faire même des manipulations au niveau de son ADN pour qu'on croit qu'elle est kryptonienne et qu'elle est donc des gènes de Superman, mais pas du tout. Voilà. Et elle mourra peu de temps après s'être retournée contre Brainiac, tout simplement. Une version tellement intéressante que dans Superman numéro 200, qui est sorti un petit peu après, il a été sous-entendu qu'elle n'a jamais existé. C'est dire l'intérêt. C'est un peu une erreur de parcours, quoi, pour moi, vraiment, Cyrel. Voilà. Et puis on arrive sur Supergirl Power de Jeff Lubb. Jeff Loeb qui avait réintroduit Kara quelques années auparavant. Il l'avait réintroduit dans Superman Batman en la faisant arriver dans son vaisseau comme dans les origines qu'on connaît, sauf qu'elle est arrivée à Gotham, dans la baie de Gotham. Et du coup, Batman très méfiant d'elle, Superman au contraire très confiant en elle. Voilà, ça a provoqué quelques situations. Et puis, quelques temps plus tard, Supergirl va avoir droit à sa série et on aura ce fameux arc Power, Tour de Force en français, par Jeff Loeb et Ian Churchill au dessin, qui est un arc là aussi assez marquant dans l'histoire de Supergirl, dont j'ai plutôt peu de souvenirs, donc je vais plutôt laisser Arnaud en parler.
Oui, tu l'avais dit, oui, elle arrive, s'écrase dans Gotham, et c'est à ce moment-là que tu as Darkseid, oui, c'est Darkseid qui débarque et qui attaque Superman et Batman, et il tue Supergirl, ou en tout cas, c'est ce qu'il croit avoir tué Supergirl, hein, parce que c'est un stratagème de Batman, bref. Passons les détails, mais ça a une importance pour Tour de Force, justement, parce qu'au début de la série, c'est un personnage qui se confronte à tout le monde. Elle, alors d'une part déjà à Power Girl, hein, on en reparlera après, mais en fait c'est une autre version de Supergirl. À la base, c'est un personnage d'un univers alternatif, mais qui existe dans cet univers-là. Justement, au moment où Supergirl est arrivée, ça a posé de grands problèmes à Power Girl, qui a vu ses pouvoirs décroître, hein, et elles sont tout le temps en conflit ensemble, et Supergirl est, on peut dire, en conflit avec tous les personnages dans cet arc. Elle est en conflit avec tous les personnages. On en croise plusieurs, on croise Superboy, on croise les Outsiders, Nightwing, les Outlaws, enfin on croise plusieurs personnages, et tous les personnages voient chez Kara une part d'ombre, hein, une part d'ombre qui est là, qui est latente, qui est cachée, et qui, justement, qui une part d'ombre qui essaye de manipuler le personnage et qui essaye d'en sortir, justement, d'essayer de prendre le contrôle. Et enfin, moi, j'ai lu Stark quasiment du début, d'une traite quasiment. J'ai fait une petite pause à un moment et j'ai quasiment tout lu d'une traite, et j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Les dessins étaient vraiment magnifiques. Et enfin, en plus, c'est un récit récent, ça date de 2005, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et l'interaction qu'elle a avec tous les personnages, je sens que c'est un personnage qui est vraiment lié à énormément de personnages. Et pour comparer avec le gros run précédent de Peter David, chez Peter David, c'est Matrix, Supergirl est une femme, une adulte. Là, dans ce run-là, c'est une adolescente. Et là, pour le coup, des fois, on a des personnages adolescents, mais à claquer, on en a marre. Et là, j'ai trouvé, il joue de temps en temps sur le fait que c'est une adolescente, parce qu'elle a un crush pour Nightwing, par exemple. Mais c'est vraiment pas du tout énervant, et ça s'inscrit bien dans la dichotomie qu'il y a entre cette Supergirl-là que tout le monde voit et cette part d'ombre qui existe en elle depuis l'attaque de Doomsday, de Darkseid. Enfin, moi, je trouvais ce récit passionnant, et ça redéfinissait bien plein de choses intéressantes pour le personnage. Voilà.
Ok. Et puis après, on est les New 52.
Oula.
Clément, je crois savoir que tu as suivi une partie des New 52.
Oui, alors c'est une infime partie, parce qu'en fait j'ai lu, je crois que j'ai dû lire les 10 premiers numéros, mm-hmm. parce que j'avais chopé ça sur eBay pour pas très cher, donc j'ai eu envie de voir. Alors j'en garde un bon souvenir, parce que ça se fait de manière assez facile. On sait quand à côté j'avais dû me taper les 10-11 premiers numéros de Superman, qui étaient juste une calamité. C'est vrai que Supergirl, j'ai apprécié par rapport à Superman, parce que j'assume facilement. Les dessins étaient plutôt beaux, moi j'aimais bien. Et
c'était le dessin de Mahmoud Asrar, et c'était effectivement très beau.
C'était vraiment très sympa, il y avait vraiment une ambiance. Et de mémoire, bon, honnêtement, je serais incapable de dire exactement de quoi traiter traiter l'arc que j'ai lu, mais de mémoire, oui, on avait un personnage à la fois, bon, je crois, confronté au doute, mais aussi un personnage qui était quand même assez fort, et je crois qu'il y avait même eu une confrontation entre Supergirl et Superman, parce que Superman, du coup, je crois qu'il savait même pas.
Début, quand elle débarque.
Hein. Ouais, il ne savait même pas qu'il avait une cousine, je crois, donc ça donnait des trucs plutôt. C'était sympa. Après, honnêtement, c'est loin d'être un indispensable. Ça, c'est clair et net. Maintenant, C'est pas le pire que j'ai lu chez New 52, quoi. Dans l'univers de Superman, effectivement, c'est pas le pire. Ça se lit, mais c'est pas. C'était. Ouais, non, c'est rien de bien sensationnel, quoi.
Moi, ce qui m'a gêné dans cette série, c'est que rapidement, on a vu une Kara émotionnellement très fragile,
Oui, c'est
qui
exact.
pleurait beaucoup, qui était
Oui.
déstabilisée super facilement.
Ouais, ça c'est vrai.
Et c'était, mais c'est aussi dû au New 52, hein.
Ouais, je pense. Ouais.
C'était un trop gros retour en arrière par rapport à tout ce que le personnage avait vécu depuis
C'est
sa
ça.
création.
Parce que c'est dommage parce que finalement, je pense que j'ai pas voulu continuer à aller dans le montage parce que je trouvais que ça risquait vraiment de tourner en rond et que ça risquait de me gonfler. Mais il y avait vraiment du potentiel pour faire quelque chose de vraiment sympa. C'est vrai qu'il y avait des côtés, bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y avait ce côté-là qui pouvait être assez chiant, mais d'un côté, tu avais quand même des trucs qui étaient relativement intéressants. Donc, ça a eu l'avantage, on va dire, de me faire découvrir le personnage de Supergirl, et on en parlait du coup, enfin, on en avait parlé sur le podcast sur la série, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était un personnage qui était quand même assez affirmé, et qui, effectivement, pouvait, enfin, moi, j'ai le souvenir qu'il bah, foutait pas mal, quoi, ça castagnait pas mal. C'était plutôt agréable. Je crois que j'ai dû m'en arrêter quand il y avait son Némésis je crois qu'il commençait à se manifester. Je
D'accord.
sais plus comment, je sais
Elle m'a
plus, mais
poursuivi forcément
voilà.
après le premier
Ouais.
âge. J'y étais revenu par la suite parce que voilà, pour voir un petit peu ce que ça donnait, et puis parce que j'avais entendu des choses et une
Ouais.
rotation qui allait arriver qui me plaisait plutôt. Après, elle a eu un numéro 0, un numéro origine qui était
Ouais.
plutôt clair et plutôt bien. Et après, du coup, le scénariste qui a récupéré après s'est servi un peu de la vulnérabilité
Ouais.
émotionnelle, et du coup, ça m'a plu pour en faire une membre du corps des Red Lanternes.
Ouais, c'est vrai que sur le coup, ça c'est hyper surprenant.
C'est vrai que c'est hyper surprenant, mais du coup, c'était une façon assez intelligente de
Ouais.
réutiliser la faiblesse émotionnelle qu'elle avait dans le premier arc surtout, et même le deuxième. Et du coup, ça rendait presque acceptable, entre guillemets, le retour en arrière qu'elle avait subi.
Ouais.
Et après, c'était pas un passage dans les Red Lanternes. Moi, je trouve qu'elle avait plutôt sa place et que
Ouais, bah c'est vrai,
c'était
quoi, sur
plutôt un
le
bon
coup,
passage.
c'est vrai, j'ai pas lu du tout, mais c'est vrai que sur le coup, je me dis, mais c'est quoi cette idée de Supergirl? Mais effectivement, si effectivement le scénariste a utilisé cet aspect-là, bah oui, c'est plutôt intelligent, parce que c'est vrai que le personnage était assez sensible. Mais d'un côté, je te dirais bien que c'est ce qui m'avait plu dans ces New 52, c'est qu'on sentait que c'était pas un personnage qui était infaillible et justement moi je crois que je l'avais ressenti comme ça quand je l'avais lu, c'était on avait le droit à une Supergirl en fait qui cherchait sa place quoi, qui cherchait où sa place et c'est finalement c'était bah déjà je trouve que c'est plutôt dans le thème premier de l'univers de Superman de Supergirl et ça rendait quelque chose d'un on va dire relativement intéressant même si effectivement à la longue c'est vrai que c'était un peu chiant mais il y avait quand même si ce côté sensible ça pouvait c'était quand même un aspect positif parce qu'on sentait vraiment que enfin moi je sentais en tout cas que le scénariste avait quand même une volonté de d'inscrire le personnage dans un contexte de développer ce personnage et de mettre un minimum de fond quoi donc c'est pas sensationnel mais c'est pas acheté non plus en fait. Je trouve que c'est une bonne tendance
La
même.
jeune femme était vulnérable, etc., émotionnellement,
Ouais.
mais l'héroïne Supergirl restait
Oui.
très forte,
Oui, c'est
très, très
ça. Très
puissante et
forte,
très
oui.
impressionnante.
C'est ça, ouais.
Et ça, c'était
Et c'était
intéressant
servi.
d'avoir vraiment cette
Ouais.
vraie séparation-là entre ces deux facettes.
C'est ça, oui, c'est exactement. Puis c'est vrai que pour le coup, la série, donc je ne sais pas si ça avait changé entre-temps de dessinateur, mais c'est vrai que la grande force de Supergirl New 52, en tout cas pour les vues, de ce que j'ai lu, c'était vraiment les dessins qui montraient toute la puissance à la fois parce qu'effectivement ça retranscrivait bien cette sensibilité du personnage mais ça montrait aussi toute la force et toute la puissance du personnage à travers certaines cases, certains combats. Donc bah enfin, forcément ça me fait penser du coup à la série Supergirl mais c'est tout le contraire même en fait de ce qu'on a dans la série Supergirl version télé et c'est ce que j'avais aimé en fait. J'étais plutôt surpris parce que j'avais plutôt aimé ce découvrir ce personnage et je pense que même si c'est pas mémorable que c'est pas un indispensable je pense que c'est une bonne porte d'entrée que de
Ah
commencer par ça c'est
clairement.
vraiment une bonne porte
Ah bah oui, on
d'entrée
peut
pour
commencer
découvrir le
Supergirl,
personnage
le New 52 au numéro 1
ouais
et
moi ça m'a fait découvrir le personnage et c'est vrai que j'avais plutôt aimé
Juste pour la mentionner, il y a une autre histoire assez qui est un peu en dehors de tout ça. Hein. Voilà, donc Supergirl est devenue une Red Lanterne. C'est sorti récemment, enfin récemment, on va dire dans l'année qui vient de s'écouler sur chez Urban en kiosque, dans des kiosques hors série qui reprenaient tous les épisodes de Supergirl avec les Red Lanternes. Du coup, ça faisait une espèce de petite parenthèse sans forcément venir polluer le magazine habituel, voilà, et bouleverser la publication. C'était assez intelligent de la part d'Urban. Maintenant, il y a une autre histoire qui est un peu à part, qui s'appelle Supergirl Cosmic Adventures on the Eighth Grade. Donc, Supergirl débarque, elle est au lycée, etc. C'est une série qui a la particularité d'être très orientée jeune public.
Ouais.
Un peu dans la mouvance Teen Titans Go et compagnie. Enfin, c'est vraiment à
D'accord.
ça que moi je la rattacherais. C'est hyper drôle. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant certains passages. Un peu what the fuck, un peu. Il y a plein de références par rapport à la vraie histoire de la vraie Supergirl dans les comics classiques, j'ai envie de dire. Mais c'est adapté à sa version ado et complètement fraîche et un peu délurée parfois. Enfin, voilà. On a droit à tout, même à sa coloc, puisque on est dans des colocs dans les États-Unis, ils vivent dans des chambres, voilà, avec leur coloc. Et cette fameuse coloc, en fait, donc c'est super rigolo parce qu'à la fin du premier épisode, tu as Kara Zor-El qui écrit à Superman pour lui expliquer comment ça se passe, sa vie à l'école, machin. Elle s'est fait de nouvelles amies, notamment une nouvelle amie avec qui elle partage sa chambre maintenant et tout ça. Et puis dans le même temps, cette jeune femme, elle écrit à Lex Luthor, un peu la même chose. Et du coup, c'est assez marrant. C'est certes convenu et voilà, mais du coup,
Sympathique, très bien.
c'est assez drôle. C'est autre chose, quoi, sur Supergirl, qui reprend plein d'éléments classiques, mais qui en fait autre chose de très très frais, très un peu acidulé, voilà, très cartoony dans les dessins. Enfin, voilà, c'est Supergirl, le côté très léger, quoi. Ça méritait quand même d'être mentionné parce que ça reste agréable à lire. On a parlé à demi-mot tout à l'heure, Power Girl. Donc Power Girl, c'est l'équivalent de Supergirl, Kara Zor-El, donc cousine
Ouais.
de Kal-El, etc. machin, sur Terre 2.
C'est ça.
Il y a une case dans Tour de Force, Power, où c'est Stargirl qui dit à Supergirl qu'en fait Power Girl, c'est la même qu'elle, avec des tailles de bonnet en plus.
C'est un peu ça, ouais.
Et c'est un peu ça, parce que Power Girl, elle a vraiment été créée aussi pour ça. Hein,
Ah oui, bah oui,
c'est la
c'est
Supergirl, mais version très sexy, très
Ah bah,
plantureuse, elle
c'est pas
déforme
pour
là où il
rien.
faut, etc.
Ouais.
Ouais, son costume a une ouverture pile à cet
C'est
endroit-là.
ça. C'est ça.
et c'est le personnage emblématique par excellence par ce point pour ça quoi. Après c'est pas
Ah bah
bon,
oui, c'est la
après
super-héroïne sexualisée par excellence, ça c'est
Ah
clair.
oui, ça c'est clair. Et je crois que si j'ai bonne mémoire dans les New 52 ils ont globalement gardé la même idée, même si je crois que c'est quand même un peu moins
Oui, voilà. Hein.
c'est un peu moins sexualisé je crois. Mais
Il y a une histoire, Huntress et Power Girl, quand elle débarque dans
ouais.
le jeu de Earth 2,
Ouais.
enfin, celle qui a toujours les vêtements déchirés et qui est moitié
Ouais, c'est Power
dénudée,
Girl.
c'est toujours Power Girl quand même.
Ah, je sais pas, parce que moi, du coup, j'ai lu, enfin, j'ai découvert Power Girl version Earth 2, du coup, qu'à travers le titre.
World's Finest, ça s'appelait.
D'accord. Oui, non, je vois, c'était, je crois que c'est un titre qui est intervenu, je crois que c'est d'être l'une des dernières vagues des New
Bah, c'était une des premières, au moment où a été lancé Earth 2,
Ah oui, non,
il y a
effectivement.
eu World's Finest qui a été lancé en même temps quasi.
Oui, et oui, bah oui, effectivement, oui, maintenant que tu le dis, après, globalement, je pense que c'est toujours. Bah après, enfin, moi j'ai lu Earth 2, mais c'est vrai que du coup, ils se sont pas tellement attardés sur ce personnage-là, parce
Oui, parce
qu'ils
qu'elle
avaient.
quittait Earth 2 justement par le portail et elle était.
Ouais, et puis c'est surtout qu'ils avaient mis l'accent en fait sur l'autre kryptonien, donc je ne sais plus le nom, et
Je vous conseille, ouais.
c'était une belle surprise
Personne n'a
d'ailleurs.
jamais gueulé à cause de cette hypersexualisation du personnage.
Bon, bien sûr que si, mais bon, après,
Sûrement.
ça n'a pas empêché DC de continuer à l'utiliser
Bah,
et à lui laisser les mêmes attributs.
c'est un personnage qui est emblématique, quoi. Même
Oui,
que,
puis c'était
enfin.
assumé, et puis c'est aussi destiné, il y a une partie du public qui regarde aussi les comics pour voir des jolies filles bien dessinées.
C'est un peu ça. Oui, non, mais
Voilà.
non, ouais, c'est
Il
ça.
y a tout un univers chez Zenescope notamment, hein, avec tous
Oui, ils sont
et tout ce qui
spécialisés.
est les Grim Fairy Tales et machin, où voilà, on a des dessins comme ça. Voilà, c'est adressé type à un public bien particulier, tout comme les Teen Titans Go et tout ça. ça vont s'adresser à d'autres publics, ben voilà, y en a pour tout le monde, et à la rigueur, bon, bah, s'il y en a qui ont envie de voir des
Oui.
histoires de super-héroïnes un peu dénudées, avec des formes, etc., et machin, pourquoi pas? Surtout que maintenant, du côté masculin, on a un peu ça aussi, hein, les super-héros sont aussi sexualisés, ne serait-ce, enfin, suffit de regarder Grayson, la dernière série de
Oui.
Grayson, enfin, voilà, il n'y a pas une... Il n'y a pas un épisode dans lequel on ne fait pas mention au cul de Grayson. Notamment avec Midnighter, toi qui lis Midnighter, Clément.
Bah, j'ai pas lu là les deux derniers, donc je saurais
Ah
pas
d'accord, mais
te
je crois que c'était plutôt dans l'épisode de Grayson où Midnighter est apparu.
Bah, c'est pas. Après, c'est vrai, c'est possible que ça soit parce que je crois que
C'est dans Grayson, hein.
ouais, ça doit être
Je
en
sais
Grayson
qu'il est
parce qu'il y
sorti
a un
du kiosque
crossover.
Urban déjà.
Il y a un
Donc c'est.
crossover avec. Parce
Oui.
que je sais que là où le numéro où je m'en suis arrêté, je me souviens que quand c'était arrivé, en fait, il avait affaire à
Oui,
Grayson, donc
en
c'est
fait,
possible que
Midnighter
ce
est
soit.
apparu dans la série Grayson. Après ça, il a eu droit à sa série régulière à lui. Et du coup, après, Dick Grayson est venu dans la série Midnighter. Mais dans l'apparition de Midnighter dans la série Grayson, voilà, il y a quand même la case où il arrive, où Grayson est penché en train de ramasser quelque chose par terre. Midnighter est derrière lui. Et il dit, texto, on n'arrive pas à voir les visages des gens de Spy de Spiral parce qu'ils ont une espèce de dispositif qui brouille leur vue, etc. Mais ce cul-là, je le reconnaîtrais entre mille. Et voilà, et du coup, voilà, il n'y a plus que les personnages féminins qui sont hyper sexualisés comme ça. Donc oui, Power Girl l'est, mais on a aussi ça maintenant du côté des personnages masculins, et c'est très bien.
Oui, non, faut
Non,
que ça
surtout vu
soit.
qu'on vit à une époque où à
Il faut
chaque
que ça
truc,
soit.
on peut lire des milliers d'articles sur ce genre de détails, hein. Je suis étonné qu'on ne parle pas plus de Power Girl à propos de ça.
J'ai d'ailleurs été ravi le week-end dernier de voir la polémique que la preview du dernier Grayson a suscité, avec un Grayson complètement nu en train de subir une visite médicale approfondie. Et ça a déclenché une polémique au même titre que ça l'aurait déclenché si ça avait été un personnage féminin. Et ça m'a fait plaisir.
Ah ouais, je suis passé complètement à côté. Après, j'ai envie de dire, tant mieux si on assiste à une sexualisation ou à une hyper-sexualisation des personnages des deux côtés. Il faudrait pas que ce soit, on
Voilà.
va dire, que du côté féminin.
Là, on
Moi,
est
je
dans une
préfère.
tendance à l'équilibrage.
C'est
Alors, certes,
ça,
c'est encore
c'est
à la marge,
l'équilibre.
mais quand même.
Ouais, non, mais c'est à la rigueur. Donc, puis à la rigueur, moi, je t'avoue que, enfin, moi, ça me choque pas parce que c'est
Ouais.
avec le,
Ah, je dis pas
c'est
que ça
avec.
choque, hein, mais
Non, ça choque pas,
vu
mais après, t'as
qu'il y a plein
toujours.
de films ou plein de séries ou quoi,
Oui,
que
non, mais je suis
je
d'accord,
suis
t'as
étonné qu'un
toujours.
personnage avec des gros seins, avec
Oui, c'est ça, mais après, t'as.
un trou dans son costume qui révèle quasiment toute sa poitrine, que personne.
T'as toujours des réacs, mais après,
Oui, mais après. En plus,
c'est
c'est un
comme.
personnage mineur.
Voilà.
Oui, en plus, parce qu'honnêtement, Power Girl.
Sans être méchant, tout le monde s'en fout et personne la
Non,
connaît.
mais voilà, c'est ça, c'est pas un personnage,
Du
tu
coup,
vas dire.
personnage mineur qui commence à prendre un peu trop de place dans cette émission. C'est
Ouais.
clair. Faudra faire du montage, là.
Oh non, c'est assez intéressant. On va passer aux adaptations importantes de Supergirl pour terminer. On en a retenu trois, hein. La
Ouais.
première, c'est Superman The Animated Series, la série de Bruce
Forcément.
Timm et Paul Dini, qui est dans le même univers que Batman The Animated Series, que la série Justice League et
Justice
compagnie, dans laquelle on a une Supergirl qui apparaît dans l'épisode Little Girl Lost. Et puis, comme je vous l'expliquais dans le fun
League.
fact sur le mag numéro 28, cette Supergirl s'appelle Kara Inze et non pas Kara Zor-El, parce que justement, on vous a expliqué plus tôt dans l'émission que Kara s'est sacrifiée et que DC avait la volonté de faire de Kal-El le seul kryptonien vivant. Donc du coup, ils n'ont pas autorisé Bruce Timm à utiliser le nom de Kara Zor-El, alors qu'il
Alors
en avait
là.
envie.
Mais du coup, Kara Inze, c'est un kryptonien ou pas?
A
Ou alors ils le
priori,
disent pas?
non, du coup. Donc ils ont trouvé une pirouette pour en faire quelque chose d'autre.
D'accord.
Ah, moi j'avais souvenir que c'était quand même une kryptonienne.
Moi, dans mes souvenirs, non.
Ah bah, ou alors
Dans
que j'avais assimilé ça à une kryptonienne parce qu'ils avaient trouvé une astuce
Oui,
scénaristique.
voilà. Mais du coup, ça mériterait de revoir notamment cet épisode-là, Little Girl Lost, pour en être sûr. Mais dans mes souvenirs, non, elle n'est pas kryptonienne du tout.
Mais en plus, je crois que de mémoire, je crois que cette Supergirl-là était assez. Quand tu vois là, ce n'était pas un
Non,
personnage qui
c'est une bonne
était.
adaptation. Bah, en même temps,
Ouais,
Bruce
c'était
Timm.
une bonne adaptation.
Bruce Timm,
Oui,
Paul
hein,
Dini. Hein.
oui, voilà, on est d'accord, quoi. C'était. Oui, il n'y a rien à dire, quoi. C'est bon aussi.
Voilà, est-ce qu'il n'y a rien à redire sur la prochaine adaptation, qui est
Ouais.
celle de la série Smallville? Arnaud, je crois que tu l'as un peu aimé, donc je te laisse en parler.
Oui,
Elle n'est
enfin,
pas dégueulasse. Il y
comparé
a
à la
pire.
prochaine dont on parlera après,
Ouais.
c'est limite un chef-d'œuvre. Mais oui, donc
Il y a
Kara
pire.
apparaît dans la saison, à partir de la saison 7 de Smallville. Ses origines sont assez différentes des comics, donc c'est bien une kryptonienne. Là, c'est fini d'ici à veut bien qu'on remette des Kryptoniens autres que Superman. Et donc, Kara était envoyée sur Terre en même temps que Kal-El pour veiller sur lui. Sauf que elle n'a pas été retenue dans la zone fantôme comme dans Supergirl, mais elle a été retenue dans un barrage pendant 18 ans. Et donc, à la fin de la saison 6, si mes souvenirs sont bons, le barrage est détruit, du coup, ça la libère. Et donc, à la suite de ça, elle apparaît dans 15 épisodes à travers la série, à travers les 3 dernières saisons, 4 dernières saisons, pardon. Et avant, finalement, la fin de la série, de rejoindre la Légion au 31e siècle. Et moi, dans mes souvenirs, alors ça remonte assez loin, Smallville quand même, ça commence à dater. Et dans mes souvenirs, le personnage était certes pas
Absolument.
fidèle aux comics, mais au moins elle montrait un personnage fort, un peu casse-pied de temps en temps, faut l'avouer. Elle était un peu casse-pied, faut le dire. Mais c'était un personnage assez fort. L'actrice était
Pas
assez
mauvaise.
sympa et bonne dans le rôle. Enfin, j'ai pas souvenir d'une
Non,
catastrophe. Hein. Bah, c'était pas Aquaman ou Green Arrow.
Oui, voilà, mais non, mais moi de mémoire, bon après, hein, c'est forcément que sur lui, ça a quand même très mal
Oui, on va
vieilli,
pas demander.
c'est mauvais, mais si on se base vraiment sur le personnage de Kara, déjà, ça fait certainement pas partir des pires adaptations de personnages qu'a commis Smallville.
Ah oui,
Non, c'est
bien
clair,
pire.
qu'a commis, il y a eu bien pire. Après, moi, j'ai souvenir, on parlait encore, je crois qu'on avait parlé dans le podcast sur le pilote de Supergirl, je crois qu'on avait comparé avec cette Kara-là et celle de la série Supergirl. Là, au moins, on avait quand même, moi, j'ai souvenir qu'on avait quand même, même dans la dernière saison, d'une Kara, bah, effectivement, qui était assez forte, qui était un personnage qui ne laissait pas... C'est pas marcher sur les pieds et surtout qui protégeait Kal-El. Donc je
Elle
trouve
prend
qu'on
son
était
rôle sérieux.
voilà, mais on était
Après Kal-El, à ce moment-là, n'était pas encore Superman non
oui,
plus.
c'est sûr, mais on était si tu veux je trouve que déjà on est plus dans le personnage de Kara, même s'il y a un tas d'aspects négatifs forcément, on est plus dans cette vision-là que dans la vision du qu'a laissé
Oui.
la version Supergirl. Donc dans ce sens-là, on va dire il y avait un minimum de l'essence du personnage, hein, même si globalement ça reste mauvais. Mais au moins on retrouvait ça et c'était effectivement c'était un personnage fort et qui n'était pas déplaisant. C'est pas le
Donc
pire.
voilà pour les versions télé. Évidemment, il y a la version actuelle, mais qui n'en est qu'au pilote au jour où on enregistre cette émission. Donc, on va pas l'inclure. Vous avez toutes nos émissions sur nos écrans pour ça. Mais on a aussi une adaptation sur grand écran. Oui, c'est
Ah
rêvé.
oui.
Un film réalisé par Janos. Alors, il a un nom absolument imprononçable. Schwark, je dirais comme ça. Janos Schwark.
Déjà le prénom.
C'est un français, hein.
Franco-américain, ouais.
Jeannot Swartz.
Donc du coup, la France, dans les adaptations de comics, a envoyé ce mec-là pour Supergirl, a envoyé Louis Leterrier pour
Christophe.
Et n'oublions pas Catwoman aussi, qui était
Christophe.
là.
Voilà. Donc trois chefs-d'œuvre dans les adaptations de comics,
Trois chefs-d'œuvre de nanar.
dont deux personnages féminins quand même.
Voilà. Helen Slater qui jouait le rôle titre de Supergirl en 1984. Alors j'ai hâte de la voir arriver dans la série télé.
On l'a vu déjà.
Ah bon?
Ouais. Oui,
C'est
c'est
la
la
mère.
mère.
Oui,
La mère, mais oui.
oui.
Mais oui. Ce film a été un échec sur tous les plans. Faut être clair. C'était une
Financier,
plantade
artistique.
totale.
Ah ouais?
Un échec commercial, un échec artistique, un échec critique cinglant, un échec public aussi. Hein. Du coup, bah, pas difficile de faire mourir le personnage un an
L'année
après dans les
suivante.
comics. Hein. Le choix était rapidement fait. Il est quand même notable, intéressant de noter qu'on avait là une première tentative d'univers partagé, puisque ce film se situait dans le même univers que les films Superman de Donner. On avait notamment l'acteur Mark McClure qui jouait Jimmy Olsen, qui était commun à la fois au film Superman de Donner et au film Supergirl.
D'accord.
Donc du coup, on avait quand même une première tentative de lier plusieurs films au sein d'un même univers. Donc du coup, c'est quand même intéressant à noter. Déjà dans les années 80, on avait cette forme de volonté-là.
Ils ont tenté dans les années 80 et en 2015, c'est toujours pas le cas.
En 2015, il n'y a encore pas de film. Non, en même temps. On verra en 2016, mais ça a l'air plutôt bien parti pour un univers partagé cette
Revoit
fois-ci.
d'ici.
Voilà. Et il leur faut du temps.
Hey, il leur faut plusieurs décennies. Il y a intérêt que le film soit bien.
Voilà tout pour ce qu'on avait à dire sur le personnage de Supergirl. On se retrouve évidemment pour nos podcasts habituels le mardi, pour le mag, jeudi pour sur nos écrans. Et dimanche prochain, dans le prochain Comic Stories présente The Infinite Loop.
Ah oh.
Ouais, n'est-ce pas?
Youpi.
Ouais, youpi.
Donc rendez-vous dimanche prochain pour cette émission. D'ici là, évidemment, bonne série, bonne lecture de Supergirl, évidemment. À bientôt.
Salut.
Salut.